Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, bien sûr, et heureuse de vous retrouver en ce jour pour continuer à parler football. Mes camarades vous en ont sûrement très bien parlé ces derniers jours. Et nous commençons Radio Foot aujourd'hui avec un invité prestigieux à vous présenter, un confrère éditorialiste au quotidien L'Équipe et qui joue de sa plume pour écrire de nombreux livres dans le domaine du football. Vincent Duluc, bonjour.
Bonjour.
Alors bienvenue dans Radio Foot International. Vous venez notamment pour nous parler de votre plus récent ouvrage qui s'appelle Enfants de la balle, consacré aux champions du monde 2018, à nos 23 bleus champions du monde. D'où viennent-ils? Sont-ils nés pour être champions? Comment ont-ils franchi les obstacles les menant à ce nirvana qu'est le titre de champion du monde? Vous nous raconterez cela et surtout les anecdotes, parce que c'est toujours par cela que c'est intéressant de rentrer dans leur histoire. Abou Diaby, c'est fini. L'ancien milieu de terrain des Gunners, éphémère joueur de l'équipe de France, annonce la fin d'une carrière qui, dans les faits, date de plusieurs mois. Abou Diaby, trahi par son corps, lui porté par un don de surdoué, mais qui jamais n'aura pu briller comme d'autres stars. Un de plus sur cette liste longue déjà des joueurs trahis par leur corps. Claude Puel renvoyé de Leicester City, le club des Foxes s'est finalement séparé de son entraîneur français après des semaines de rumeurs autour de son cas. Une défaite fatale à domicile et c'est le dernier français assis sur un banc en Europe qui disparaît, hors Ligue 1 bien sûr. Les entraîneurs hexagonaux n'ont-ils donc plus la cote? Eh bien nous en parlerons aussi avec vous, Eric Rabessandratana, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Si vous avez envie d'être entraîneur là, hein, il pourrait y avoir des postes à prendre.
Il y a long chemin avant d'arriver au niveau de Claude Puel.
Demandez à Bibi, je pense qu'il vous racontera. Gilles Verdez, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Radio Foot. C'est parti.
On peut pas prendre le risque. On continue, on donne tout et on remonte au score.
Bon, alors vous jouez ou vous déclarez forfait?
Les Bleus. Faudrait qu'on reprenne le match. Vous discuterez plus tard.
Saleté de crampe.
Dites donc, pourquoi vous ne faites pas entrer, Gabriel?
À moins que tu préfères abandonner, Tag.
Ok, qu'il rentre.
Le tube qui a bercé l'été 2018 et surtout celui des amateurs de football, allez les Bleus bien sûr, et cette petite ambiance était extrait d'un film qui s'appelle Foot de rue, un dessin animé pour enfants. Alors Enfant de la balle, Vincent Duluc, c'est le titre de votre ouvrage. En fait c'est une expression qui n'a pas forcément trait au football, n'est-ce pas?
Non, pas du tout. Effectivement, c'est plutôt autre chose.
C'est une balle, mais à l'origine de l'expression, c'était le jeu de paume.
Voilà, c'est ça. Mais je trouve qu'il y a quand même tout qui se mêle. Il y a le fait qu'on, comme, dans la mesure où on s'intéresse à l'histoire avant l'histoire, on revient à l'enfance. Puis enfant de la balle, oui, il y a enfance de l'art un peu qui est un peu écrit un peu dessous, on va dire en sous-impression.
Donc, enfant de la balle, c'est aussi souvent les gens du cirque,
oui,
en fait,
hein,
c'est-à-dire un peu tout ce qui est artiste, finalement, avec son corps. Et enfant de la balle, c'était aussi, ça désignait ceux qui le sont de père en fils.
Mais du coup, ça convient parfaitement. En fait,
j'imagine.
J'en étais pas sûr, mais maintenant que vous venez de me dire tout ça, je me dis vraiment que c'était le bon titre.
J'imaginais bien. En tout cas, enfant de la balle, vous êtes, avant qu'on attaque sur ce livre, vous êtes un auteur prolifique. J'admire parce que quand on est journaliste, des fois, on n'a pas toujours le temps de se consacrer à l'écriture et aux enquêtes, en plus de celles qu'on doit mener au quotidien pour le travail. Et vous en avez écrit des livres, Les 50 Glorieuses du foot français, c'était le premier?
Ouais, j'ai dû écrire à peu près une vingtaine de livres de genre, de livres de foot, et puis trois livres dans la collection Bleu à Stock, voilà, qui était un peu plus littéraire.
Après, il y a eu les 50 glorieuses de la Coupe du Monde, allusion à 98.
Ah, mais je les ai toutes déclinées, celles-là, les 50, les trucs. Mais Gilles Verdez a fait ça aussi un petit peu.
Exactement.
Oui.
Je me taisais, mais j'admirais.
Il y a Star du Mondial 2002, la grande histoire de l'OL, hein. On sait en vous lisant dans le journal que c'est une de vos grandes spécialités. En fait, est-ce que votre cœur balance d'ailleurs entre Lyon et Saint-Etienne? Parce que vous avez écrit Un printemps 76 où vous racontez
absolument
fort bien l'aventure des Verts. On a le droit d'être des deux?
Mais dire que quand on a un père stéphanois et des enfants lyonnais, on est forcément des deux. Alors voilà, selon le niveau de détresse de chacune des deux parties, on se rapproche par empathie de l'un des deux.
Mais alors quand il y a un derby, vous faites comment?
Ben j'essaie d'être du côté de celui qui est le plus content ou alors du plus triste, ça dépend de mon niveau de compassion.
De l'humeur du jour. Alors moi j'ai retenu aussi la fabuleuse histoire des France-Brésil, hein. J'ai passé 20 ans au Brésil et notamment en suivant le football brésilien, donc cette fabuleuse histoire des France-Brésil... C'est vrai qu'il se passe toujours quelque chose quand il y a un France-Brésil, c'est ça?
C'était un livre choral avec beaucoup, beaucoup de plumes. On était une quinzaine à peu près à y avoir participé. Et c'est vrai que chacun donnait un peu sa vision de ce qui reste l'affrontement mythique pour le foot français. Même avant la finale France-Brésil, on rêvait tous d'une finale France-Brésil. Donc voilà, c'était effectivement...
Et au Brésil, ils la craignaient pas en plus. Je peux vous le dire. En 98, ils pensaient qu'ils allaient manger tout cru, les Français.
Mais oui, mais ils le pensaient aussi en 2006, et puis ça s'est mal passé, et puis ils le pensaient aussi en 86, et ça s'est mal passé, voilà.
Il y a eu un ascendant psychologique, on dirait, hein, qui a été pris.
Je sais pas, mais toutes les équipes ont un adversaire un peu maudit. Et pour le Brésil en Coupe du Monde, clairement, c'est l'équipe de France.
Bon, alors voilà pour ce qui est de votre bibliothèque, on va dire, et des livres que vous avez commis. Pour ce qui est de ce livre Enfant de la balle, vous avez suivi la Coupe du Monde pour le journal L'Équipe. Alors pas seul, hein, on sait bien que surtout le journal, vous êtes plusieurs. C'est ce qui vous a donné envie après la finale ou pendant peut-être toute l'épopée, de vous intéresser à finalement l'origine de ces joueurs.
Mais en fait, Larousse voulait revenir sur la Coupe du Monde et j'avais pas très envie de raconter à nouveau l'histoire de la Coupe du Monde. Ça avait déjà été fait de manière...
Pratiquement le lendemain de la finale,
il y avait des livres. Tout le monde l'a fait, très vite, partout. Donc j'ai préféré... On s'est mis d'accord sur cet angle-là. Effectivement, raconter l'histoire avant l'histoire, raconter l'enfance de ces joueurs. Dire que derrière l'apparence que... qui sont riches, qui sont en pleine gloire, qui sont admirés. Ben avant, il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de difficultés, beaucoup de parfois de violence un petit peu. Parce que quand Eric connaît tout ça, mais ce sont des mômes qui ont grandi entre l'âge de 12 et 18 ans, avec la plupart d'entre eux l'épée de Damoclès de pas savoir au mois d'avril quelles lettres ils allaient recevoir de leur club, si on allait leur dire qu'on les gardait ou si on allait leur dire que c'était fini. La plupart d'entre eux étaient loin de chez eux, donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont devenus champions du monde, et il y a quand même beaucoup de difficultés qui disent l'adolescence parfois difficile qu'ils ont connue.
Quel est le point commun qu'ils auraient tous entre eux, selon vous?
Déjà, je pense que c'est pas le talent, parce que le talent, ils ont tous du talent, et la plupart des footballeurs gâchés ont à peu près le même talent. Voire parfois plus. Ouais. Donc la différence, si on dit que c'est un peu de chance, il y a peut-être un peu de chance de rencontrer la bonne personne au bon moment, ça arrive sûrement, mais comme sur 15 ans, c'est toujours les mêmes qui ont de la chance et les mêmes qui n'ont pas de chance, on se dit que du coup, il n'y a pas vraiment de hasard. Donc si c'est ni le talent ni la chance, ben après c'est des choses un peu plus intimes. Parfois c'est le refus de la défaite qui est quelque chose qui est pas intime, qui est pour le coup une qualité de compétiteur, mais pour moi qui fait la différence. Ceux qui acceptent la défaite à la 88e parce que c'est trop difficile, et ceux qui sont sûrs de marquer à la 92e, ça fait une vraie différence dans le foot de haut niveau. Donc je pense que c'est peut-être ça qui les réunit le plus. Voilà, ceux qui refusent le plus longtemps et le plus tardivement la défaite. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça, parce qu'après. Après, il y a évidemment l'environnement familial, le fait d'être bien entouré, de faire les bons choix au bon moment.
Et pas forcément par deux parents, parce qu'on voit que des fois, c'est des mamans toutes seules hein, qui auront fait beaucoup d'efforts pour leur fils et qui y parviendront comme ceux qui sont encadrés par leurs deux parents.
Mais comme avec la génération des champions du monde 98, la figure de la mère est vraiment centrale. Elle est même plus que le père. Parfois, il s'agit de jouer contre le père ou pour susciter son admiration dans certains. Mais c'est toujours pour la mère, en tout cas. Et la mère, elle est toujours là, elle est toujours centrale, elle est toujours essentielle. C'est marrant, vraiment dans toutes les générations de footballeurs.
Quand vous parlez du refus de la défaite, je pense à une des anecdotes amusantes et sûrement méconnues par rapport à d'autres, c'est celle de Samuel Umtiti, qui, quand il était petit déjà, n'aimait pas perdre, alors qu'il était, lui, défenseur, et qui prenait l'initiative.
Mais oui, mais voilà. Alors pour le coup, le talent aide à ne pas perdre. Quand on est défenseur et qu'il faut traverser tout le terrain pour aller marquer des buts qui vont faire gagner l'équipe, évidemment, cet orgueil-là les mène à faire ça. Mais Hugo Lloris, qui était gardien, m'a raconté exactement les mêmes anecdotes. Quand il jouait à 7 contre 7 et que son équipe perdait, ben, il montait, il allait marquer des buts parce qu'il supportait pas ça. Autrement, il savait qu'il allait pleurer tout le week-end parce qu'il avait perdu. Ça, il n'en était pas question. Il n'allait pas en plus pleurer devant les autres après avoir perdu devant les autres. C'était une double punition qui était inenvisageable.
Ce qui est amusant, donc, c'est que Umtiti, donc, il n'aimait pas perdre et de défenseur, il montait et la demi-finale se débloque grâce à une tête d'Umtiti sur un corner.
Voilà, c'est ça.
Comme si ça avait été écrit quand il avait une dizaine d'années.
Alors que je doute que Lilian Thuram soit souvent monté pour marquer des buts, même quand il était jeune.
Ouais, mais c'est la preuve du caractère du joueur. C'est compétiteur, c'est tout. En fait, c'est un ensemble.
Ouais. Gilles.
Ce qui est intéressant dans les, moi je connais bien Vincent parce qu'on a été collègues à l'équipe. Et ce qui est intéressant dans ces livres, c'est la vision sociale et sociétale du foot. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des parcours individuels qui juxtaposés forment un collectif. C'est aussi des enfants avec des origines totalement différentes, j'allais dire divergentes, de la République et de la société française telle qu'elle est. Et dans ces livres, on voit que ces parcours individuels forgent un destin commun. Je trouve que, alors on va pas les glorifier dans un panthéon, ils sont trop jeunes pour ça. Mais néanmoins, à travers ces parcours-là, je trouve qu'il y a une vision de la société française telle qu'elle pourrait être et telle qu'elle nous mène à ce que des millions de Français soient heureux dans les rues. Donc ces enfants de la balle, c'est un peu nos enfants à tous.
Oui, d'ailleurs, on voit quand Kylian Mbappé, par exemple, va se promener dans Bondy, c'est vrai que ils se sentent tous représentés par ce jeune qui est allé si loin et si vite pour l'instant.
Mais ce qui est étonnant ou pas, c'est qu'effectivement, pendant tout au long de la Coupe du Monde, il y a une revendication vive la République, vive la France, de la part des joueurs, qui était assez étonnante. C'est-à-dire que quand on se souvient de 2010, du fossé, de la scission, de tout ce qu'on veut, entre les joueurs et l'opinion publique française, c'est pas seulement la victoire qui ramenait ça, c'est aussi une manière de revendiquer effectivement, comme dit Gilles, quelque chose qui est de l'ordre du vivre ensemble, du bien commun, etc.
Parce qu'en plus on se souvient quand au lendemain de la victoire, il y a ces commentaires disant que c'est pas forcément des Français, que c'est une victoire des Africains, voire pour certains.
C'était des commentaires étrangers, hein, c'était
oui,
pas
oui,
des commentaires
bien sûr,
français.
Oui, hein, oui, de l'étranger, certains. Même en Amérique du Sud, ce n'était pas seulement en France. Mais justement, vous disiez, dans tout ce groupe, finalement, mais il y en a que deux, je crois, qui sont nés hors de France.
C'est une différence par rapport au 98, mais c'est parce que voilà, c'est des immigrés des nouvelles générations.
Trois ou quatrième génération.
En 98, il y en avait beaucoup plus. Il y avait Desailly qui était né à Accra, il y avait Makelele qui était né à Kinshasa, il y avait
Trézéguet
était né à Rouen pour le coup.
Mais il vit en Argentine aussi.
Voilà,
ouais.
Lui, il était à l'envers. Mais il y en avait un peu plus dans cette génération-là. Bon, j'ai dit Makelele, oui, mais il n'était pas champion du monde en 98, il est arrivé en 2000.
Ouais.
Mais je savais que Gilles n'avait pas laissé passer ça.
Donc là,
j'avais intérêt à rectifier de moi-même parce que là, qu'est-ce que j'allais prendre? Mais donc, il y en avait beaucoup plus.
Et là, on a quoi? Samuel Umtiti
On a Samuel Umtiti qui est né à Yaoundé, absolument.
Et Steve Mandanda, je crois.
Et Steve Mandanda qui est né à Kinshasa aussi, voilà. Et donc,
mais tout s'élevait après dans le moule, entre guillemets, de l'Hexagone et du football français.
Absolument. À la limite, la chose qui est presque fascinante, c'est qu'il y a très peu de joueurs qui viennent des zones rurales. Ça, quand on regarde l'origine, tout le monde vient des grands centres de population. À la limite, le plus provincial, le plus rural de tous, c'est sans doute Florian Thauvin, pardon, qui vient d'un petit village à côté d'Orléans, mais d'un petit village où il y avait un bon encadrement. Mais Mâcon, c'est pas une zone rurale.
Moi, je suis
qu'à 30 km de Mâcon,
mais
je serais interdit de dire que c'était une zone rurale.
Bon, okay,
une zone fluviale, à la limite, mais pas rurale.
C'est justement cette
préfecture de la Saône-et-Loire, quand même.
Oui, notamment, quand même. C'est un des départements français, le 71, n'est-ce pas? Cependant, justement, c'est ce que vous dites, ça vient pas d'une zone rurale. Il y a plus de foot de rue. Est-ce que l'école de la rue, alors on la révérencie hein, quand on parle des Sud-Américains souvent, et ça disparaît aussi, notamment au Brésil et en Argentine où il y a de moins en moins de place finalement, mais on a l'impression que cette ginga, comme on dirait au Brésil, cette manière de jouer totalement libre et tout ça, ces jeunes joueurs français sont passés complètement à travers.
Non, pas complètement à travers, non. Je pense que ça existe toujours, alors c'est vrai que c'est moins important qu'avant, et aujourd'hui, d'ailleurs, la fédération allemande vient de lancé un plan de relance de sa formation, et dedans, effectivement, c'est rendre la rue aux footballeurs, retrouver les footballeurs de rue. Donc c'est vrai que on dit toujours qu'il y a une technique particulière dans la rue, et dans une interview un jour, Zidane avait eu cette phrase incroyable, il avait dit, franchement, sur gazon, je suis pas mauvais, mais je vous assure qu'en basket sur le goudron, je suis encore meilleur.
Ça, c'est sûr.
Donc, c'est fascinant. Ouais.
Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est que, en fait, maintenant, il y a des terrains qui sont installés pour, justement, le foot de rue, ce qui fait que, les conditions où tu poses ton t-shirt par terre et tu t'es pour faire des buts, aller jouer comme ça dans la vraie rue, j'allais dire, non, ça existe moins, pas plus, mais moins, beaucoup moins.
Ouais. Il y a aussi le fait que maintenant, le tamis, le maillage est extrêmement serré. Quand on prend les zones urbaines dont parlait Vincent, moi je connais un peu en Ile-de-France, les jeunes dans tous les clubs de banlieue parisienne et à Paris, mais en banlieue, à 10 ans, ils sont déjà repérés. Ouais. Et encore 10 ans, jouent à large. C'est-à-dire que il y a le parcours des centres de formation. Vincent disait la bonne personne au bon moment. C'est bien sûr quelqu'un de la famille, mais c'est aussi quelqu'un qui repère, sans vouloir faire de l'argent sur le dos du jeune, donner une prime en dessous, parce que très jeune, on n'a pas le droit, mais il y en a qui donnent quelques milliers d'euros aux familles tout de suite et qui après font n'importe quoi pour que leur enfant aille quelque part où il sera pas bien. Il y en a qui construisent l'avenir des enfants, des représentants, mais dans le bon sens du terme, qui permettent à ses enfants de se peaufiner physiquement, d'acquérir un bagage technique et intellectuel aussi, qui fait qu'après, s'ils foutent, ils peuvent pas aller très loin, ils ont ce bagage-là. Donc la construction de ces enfants dans les zones urbaines en France, elle est extrêmement bien faite. Et c'est vrai que, à part la blessure, il n'y a pas de talent qui échappe au recrutement.
Mais juste une précision sur le foot de rue. En fait, si on définit le foot de rue par le football en dehors des moments encadrés, en fait, il existe toujours. Dans toutes les histoires de ces enfants-là, on se rend compte que...
Dans les parcs, mais pas dans la rue.
Moment où Pogba, il joue en club, et ben, il joue en bas de son immeuble, malgré tout. Et en dehors du moment où Griezmann joue en club, il va jouer dans un champ, pas très loin, parce qu'effectivement, comme dit Eric, c'est un peu la campagne à Mâcon.
Il y avait des champs.
Il y a un peu plus de champs qu'à Paris, mais bon.
Malgré tout, pratiquement tous, sauf un, sont passés par des centres de formation.
Un moment ou un autre. De toute façon, tous les amateurs qu'on voit en Coupe de France, quasiment, sont passés par les centres de formation.
Mais en 98, c'était pas le cas de cette génération-là.
En 98, si, c'était beaucoup passé. Par les centres de formation aussi. Finalement, ce qui est plus la barrière, plus que centre de formation, pas centre de formation, finalement, c'est l'échec en formation ou pas l'échec en formation. Ce qui est fascinant, c'est ceux qui reviennent après avoir connu l'échec en formation. Koscielny n'était pas la Coupe du Monde, mais c'est le cas de Giroud, qui a échoué à Grenoble et qui est revenu par le national à Tours, où il a d'ailleurs joué avec Koscielny. Mm-hmm. Voilà, c'est le cas de ces parcours-là. Kanté, lui, il a pas connu de formation. Mais c'est sans doute un talent différent, c'est un talent tellement collectif qu'il se voit seulement par rapport à son environnement. Donc il s'est adapté à chaque fois à son environnement et à chaque fois que le niveau a monté, mais on le voyait peut-être moins quand il s'adaptait à la DH que quand il s'adapte à la Ligue des Champions et à la Coupe du Monde.
Ouais. Justement, est-ce que le fait de passer quand même par des centres de formation fait que l'éclosion des talents est peut-être plus précoce, et je pense à Kylian Mbappé?
Je pense qu'Mbappé
ou à Dembélé, par exemple.
Je pense qu'il est impossible de partir de Mbappé et d'en faire un principe général pour quelques domaines que ce soit, parce qu'il est vraiment une exception dans tout. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la France, de manière générale, est propice à l'éclosion des jeunes talents à cause de la pauvreté économique de la Ligue 1. C'est un effet mécanique.
Dans la mesure où
la Ligue 1 est pauvre,
où elle n'a pas
les moyens des quatre grands championnats, elle promeut des jeunes très vite, à 18, à 19, à 20 ans, qui peuvent pas jouer en Angleterre, ni en Espagne, ni en Italie, ni en Allemagne à ce temps-là. En Allemagne un peu plus.
Parce que Dembélé, c'était effectivement la destination.
J'ai connu ça à Nancy. Ce que tu dis est vrai, Vincent. J'ai connu ça à Nancy. C'est-à-dire que quand tu as moins de moyens en plus dans les clubs, alors là, c'est un peu moins vrai de nos jours, mais il y a quand même une différence par rapport à la première ligue quand tu regardes et qu'il y a moins de moyens, du coup, on va piocher plus facilement dans les centres de formation. Et du coup, ça donne plus rapidement la chance aux joueurs qui auraient peut-être dû attendre 20 ans ou 21 ans avant de commencer à jouer en professionnel.
Mmh. Et on les lance trop tôt, Vincent Duluc ?
La preuve que non. C'est-à-dire qu'effectivement, passer un temps, on disait qu'on a peur de les griller. Mais aujourd'hui, ils sont prêts pour ça. Vous citiez Ousmane Dembélé qui est parti à 18 ans à Dortmund, mais il n'y a pas de problème. À 18 ans, Kylian Mbappé est capable d'assumer un transfert de 180 millions d'euros au Paris Saint-Germain, alors qu'il y a 20 ans, effectivement, un joueur de 18 ans qui valait 3 millions, il en aurait entendu parler pendant toute l'année, ça l'aurait écrasé.
Ça reste des exceptions. Je suis pas sûr que tout le monde puisse supporter cette pression, surtout même la pression derrière de l'efficacité et tout, quoi.
Anthony Martial, quand il avait coûté les fameux 80 millions, là, on lui avait beaucoup parlé de ça.
On lui avait parlé de ça, mais il avait été le meilleur buteur de Manchester United cette saison-là. Mmh. Donc je veux dire, c'est quand même une nouvelle génération qui est plutôt prête à ça. Qui sait que ça va lui arriver? Qui sait très tôt que l'étranger existe? La génération d'Eric, ils pouvaient partir à l'étranger quand ils avaient 25, 26 ans.
C'était
le deuxième ou le troisième contrat professionnel.
Exactement.
Et donc c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, c'est souvent le premier. C'est pas un problème. De toute façon, les clubs sont aussi prêts à les vendre. Avant, le marché des transferts était fort pour les joueurs de 25 ans. Aujourd'hui, il est fort pour les joueurs de 16 ans. Donc ça change le monde.
Mais c'est vrai qu'avant, on se serait posé la question que vous citiez était légitime. Est-ce que ça leur arrive trop tôt? Mais comme disait Vincent, ils sont champions du monde. Donc, ils ont connu l'aboutissement très tôt. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment ils le digèrent. A priori, pour les meilleurs d'entre eux, comme pour Mbappé, Dembélé, ça a pas l'air de poser beaucoup de difficultés. Mais c'est vrai que je suis d'accord, il y a une précocité maintenant. Et dans le foot aussi. C'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques athlétiques de vitesse, d'explosivité qui s'accordent parfaitement avec la jeunesse aussi. Si Mbappé est si fort, si jeune, c'est parce que si jeune, il va si vite. Peut-être que dans 10 ans, il ira un peu moins vite, mais il y a cette explosivité. S'ils sont préservés de la blessure, c'est pour ça que je pense que ce titre-là, on va le conserver quasiment ad vitam aeternam. Les prochaines éditions sont pour nous. Ils sont tellement jeunes.
Tu disais ça en 2002, Gilles, je me souviens très bien.
S'ils sont pas blessés, ben voilà, on va tout gagner.
Ouais, parce que c'est vrai qu'ils sont extrêmement jeunes. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'écrémage est terrible. Vous écrivez dans le livre, vous citez des statistiques, c'est 1 sur 5000 jeunes entrant dans un centre de formation qui va devenir un joueur professionnel.
Non, je crois pas que ce soit 1 sur 5000. C'est 1 sur 5000 d'années d'âge, non? Je crois que c'est un joueur sur 5000 d'années d'âge.
Oui, pardon.
En général, dans le foot.
Oui.
Sur un centre de formation, on est plutôt, par rapport au début, on peut être sur 1 sur 15, peut-être 1 sur 10, par rapport à la première année, entre la première et la dernière année. C'est-à-dire, si chaque année, il y en a 10, comme c'est pas les 10 mêmes qui restent, voilà, on va tomber sur peut-être 10% à peu près, ouais.
Et vous dites que, en fait, ça va très vite puisque 32% des futurs professionnels ne sont pas identifiés à l'âge de 12 ans. Donc, s'ils le deviennent après autour de 18 ans, c'est vrai que ça va très très vite dans cette phase-là.
C'est la proportion de ceux qui partent de chez eux un peu plus tard. En plus, de plus en plus, les clubs pro essaient de pas déraciner les jeunes. De plus en plus, ils essaient de recruter autour d'eux. C'est-à-dire, par exemple, le meilleur centre de formation en France, c'est Lyon. Mais Lyon, 90% des joueurs qui sortent de Lyon, c'est dans un rayon de 50 km à la ronde. Donc voilà, maintenir la structure familiale, c'est vraiment essentiel.
Et ça leur donne de l'équilibre.
Ça donne surtout une identité au club. C'est-à-dire qu'il y a l'identification du jeune qui est autour et qui appartient à la ville ou à la région, qui se dit, ça c'est le club de ma région, donc je veux réussir dans ce club aussi.
Et quand ça n'est pas à Lyon, c'est qu'ils ajustent un profil spécifique. Par exemple, sur une tranche d'as, s'ils n'ont pas un latéral gauche, là, ils vont aller à l'extérieur de Lyon et de la région, mais ils vont bien veiller à ce que le jeune, entre guillemets, ciblé, puisse avoir un environnement familial ou qui le suive, ou que ce jeune, parce qu'avant, ils vont discuter avec les parents, ils vont suivre le jeune, ne subissent pas les effets d'un déracinement, ils ne soient pas perdus à Lyon. Donc, il y a toute une étude. Avant, on disait parfois les centres de formation, qu'est-ce que c'est, etc. Maintenant, c'est hyper structuré au niveau, bien sûr, footballistique, intellectuel et de l'environnement familial.
Mais ils ont quand même pas pris Griezmann.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire.
Il y a des ratés.
Macron, c'est pas très loin de Lyon et pourtant il a dû aller à Saint-Sébastien, à Bayonne au lycée et à Saint-Sébastien.
C'est
pour
ça qui est incroyable parce qu'il venait avec son père dans les virages de Gerland pour les grands matchs de Ligue des Champions. Il était supporter de Lyon et de Sonny Anderson. Il voulait absolument signer à l'OL. Et effectivement, il se trouve que dans son année d'âge, c'est même pas une génération, dans son année d'âge, il y avait déjà des internationaux tout autour du ventre. Ils avaient Grenier, ils avaient Lacazette, ils avaient John Taffer qu'on a oublié, qui s'est perdu, mais qui était très fort à cette époque. Là. Et du coup, ils avaient pas besoin d'un attaquant en plus, mais évidemment que leur cul, ils l'ont regretté.
On les entend, alors on les détecte très jeunes, maintenant, évidemment, avec les moyens actuels, on les filme et on les photographie très très jeunes. Écoutons justement Antoine Griezmann quand il était encore tout jeune et qu'il allait demander un autographe à Thierry Henry.
C'est pour vous, ça. C'est la relève.
Deux chasseurs d'autographes en culotte courte ce matin à Saint-Jean-d'Ardière pendant l'entraînement des Bleus. Ils se faufilent partout et ils sont tellement craquants qu'on ne peut rien leur refuser.
Henri, Lisa Razou, Barthez, Robert Pires, Mixon Pé, Lisa Razou, Carambeu, Candela.
C'est vous qui en avez eu le plus?
Je sais pas.
Voilà le petit Griezmann, déjà tout blond, hein, ouais. Et déjà des yeux de chimène pour.
Mais c'est fascinant l'histoire de la transmission, l'idée de la transmission. Alain Giresse racontait que dans son enfance, il avait envoyé un jour une demande d'autographe par la poste à Raymond Coppa à Reims, et qui était revenu avec un petit mot et qui l'avait gardé comme ça, de machin émerveillé. Donc c'est marrant comme le flambeau se transmet comme ça.
Adil Rami, c'est le seul qui n'était pas vraiment d'un sérail, on va dire.
Ah, il était d'un sérail, mais plutôt du sérail des jardiniers de la Côte d'Azur. Non,
c'est
un dessin fascinant.
Son histoire.
C'est un dessin fascinant. D'abord, c'est un type adorable. Il est là aujourd'hui, il est médiatisé pour des raisons qui sont plus ou moins bonnes, mais qui, je pense qu'il ne dérange pas plus que ça. Mais c'est un dessin incroyable et qui tombe sur quelqu'un qui est vraiment, c'est vraiment un bon gars et un type attachant. Mais son destin, effectivement, c'est qu'il est rejeté par les clubs de la Côte d'Azur, alors qu'il vit là-bas, il joue à Fréjus-Saint-Raphaël, il est rejeté par Cannes, par Nice, par Monaco, et qu'à 18 ans, alors qu'il est jardinier municipal à Fréjus, il trouve à 19 ans, il trouve enfin un contrat à Lille grâce à un entraîneur qui croyait en lui, qui connaissait quelqu'un à Lille, et voilà. Donc, c'est une histoire vraiment forte.
Et c'est lui qui est devenu le plus people aujourd'hui, c'est ça qui est fou.
Sans avoir joué une minute en Russie, en plus.
Ah oui, mais il a fait bien plus que ça.
C'est vrai qu'il a su servir d'un distincteur voilà. En pleine nuit, il ne s'est pas donné à tout le monde.
Effectivement, ça fait partie des anecdotes. En tout cas, voilà, il faut lire, si vous rêvez de devenir un jour footballeur et que des enfants comme ça, très jeunes, ont envie de lire un livre, Enfant de la balle, et vous verrez que finalement, tout le monde a sa chance, c'est ce qu'on peut dire, Vincent Duluc.
Tout le monde a sa chance, mais il n'y en a pas tant que ça qui savent la saisir.
Ouais, ça, c'est le problème. Et il faut avoir de la persévérance et ne pas détester perdre. C'est aux éditions Larousse.
Au contraire, il faut détester perdre.
Détester perdre et détester le sentiment de défaite. J'ai oublié de dire en vous présentant aussi que vous faites partie du top 30. Alors, vous êtes le 20e des personnes qui comptent dans le football français.
Non, ça s'est arrivé
une fois. Qu'il soit que 20e est une sorte d'hérésie.
Soyons clairs. Surtout avec ces nouvelles fonctions.
Il faut entrer dans le top 10, Vincent.
C'est arrivé une fois et c'était pas cette année.
Mais bon, je tiens à le dire. Vous êtes quand même, il y a peut-être des auditeurs qui vont vous écrire pour vous demander des conseils sur quelle route à suivre. Et justement, comme on parlait de ces footballeurs qui sont détectés très jeunes et qui rêvent de devenir footballeur, on va continuer en évoquant Abu Dhabi.
Les blessures ne tuent pas, je suis en vie. Abu Dhabi, quelques millions et je me pars d'ici.
C'est Abu Dhabi, tall, rangy, going for goal. Oh, what an absolute screamer! Abu Dhabi, a glorious strike.
J'ai quelque chose d'important à annoncer. En effet, je mets un terme à ma carrière professionnelle.
Et oui, il raccroche à Abu Dhabi, lui qui n'avait plus joué de match professionnel depuis le 21 août 2016, alors sous les couleurs de l'OM. 2 ans et demi sans jouer officiellement pour l'ancien milieu de terrain d'Arsenal, avant de renoncer donc au terrain à l'âge de 32 ans, il le disait hier soir chez nos confrères d'RMC Sport. Une officialisation donc de lui-même, l'ancien bleu, mais pour beaucoup, Abu Dhabi était perdu, toujours empêché pour des raisons médicales. Il a accumulé les blessures sur Internet, on trouve des tableaux avec les problèmes qu'il a eu et les dates, et c'est absolument incroyable. On répertorie plus ou moins 43 blessures. Pourtant, ses entraîneurs croyaient en lui, on lui a donné beaucoup de temps, Arsène Wenger notamment. 9 saisons à Arsenal, mais peu de matchs. 2 Coupes d'Angleterre, il n'a pas joué les finales. Et puis, il y a eu 16 sélections en équipe de France entre 2007 et 2012. C'est un joueur trahi par son corps, et c'est dommage, Eric Ravessan-Ratana.
Ouais, c'est dommage comme d'autres, comme Gourcuff, comme des talents qui sont obligés de faire avec ce corps qui répond pas comme il voudrait. Donc c'est vrai que c'est dommage pour nous aussi, parce que franchement, Diaby, le talent, quand on l'a vu jouer sur le terrain, quand il avait la possibilité de jouer, moi je me suis dit, ça y est, on a trouvé je vais pas dire un Mbappé parce que ça n'a rien à voir, mais voilà, un joueur d'exception qui est capable de faire des choses incroyables. Et puis malheureusement, il n'a pas pu enchaîner, il n'a pas pu profiter de ses qualités et les utiliser jusqu'au bout, quoi.
Sa première blessure, c'était en 2006, on a vu dans un match en Angleterre. Et après, il a enchaîné les blessures, Gilles, et ça, ça pardonne pas, malheureusement.
Non, il y a eu des blessures, et c'est vrai que, comme le disait Eric, c'était à un moment, ça a été l'homme proté du football français. Ah ouais. Hein, c'était le nouveau milieu de terrain, le nouveau, peut-être Patrick Vieira, voilà, c'est ses milieux de terrain, premier buteur de l'ère
plus
des champs.
Plus offensif, parce
oui,
qu'il
c'est
était
ça,
capable
avec
de marquer.
Un abattant, voilà, exactement, ça. Avec un registre peut-être encore plus développé, premier buteur de l'ère des champs. Et puis, c'est cette fragilité, moi, ce qui m'a marqué à l'heure où il prend sa retraite, c'est aussi cette volonté, là, il renonce, mais combien de fois il a pas renoncé. Exactement. Il est revenu à chaque fois avec un mental phénoménal. Et puis là, le corps a lâché, il n'y a plus rien à faire.
Sa dernière tentative, c'était du côté de l'OM. Oui. Hein, l'OM qui avait accepté de le prendre à ce moment-là, c'était avec la Sana Diarra, on s'en souvient. Et c'était pour essayer de lui donner la chance d'être dans un centre d'entraînement et puis de peut-être de jouer un match. Et en fait, il en aura fait quelques minutes seulement.
On peut dire que c'est bien d'avoir tenté, peut-être à ce moment-là, pour son corps, c'était déjà trop tard. Il a joué que très peu avec Marseille. Il a connu que trois clubs, Auxerre, Arsenal, Marseille. Mmh. Ça a été un joueur de fidélité. Wenger en parle avec des trémolos dans la voix et réciproquement. Mais voilà, ça reste effectivement un de ces joueurs. On parlait des jeunes qui échappent à la blessure parce qu'il y a des destins brisés par des blessures graves. Et lui, comme d'autres, voilà, n'a pas pu se remettre de cette succession de blessures.
Vincent Duluc, qui vous a fait aussi rêver à un moment à Abu Dhabi, vous y avez cru?
Ah, mais oui, à l'approche de la Coupe du Monde 2010, à laquelle il a participé d'ailleurs. C'était le joueur dont on espérait vraiment qu'il change un peu le dessin de l'équipe de France. Et de manière assez étonnante, son adolescence a été médiatisée, puisqu'en fait, il faisait partie du documentaire à la Clairefontaine. Notamment, il y a une scène de dispute célèbre avec Ben Arfa, quand ils ont 14 ou 15 ans. Et on l'a vu arriver. Et ce qu'il faut dire, c'est que sa fragilité musculaire, qui est devenue, on va dire, mythique, il n'y a pas eu que ça. Parce qu'au départ, la blessure en Angleterre, il s'est fait découper par un défenseur anglais qui lui a occasionné une double fracture. Et c'est toutes les conséquences de cette blessure-là qui ont perturbé sa carrière.
Est-ce qu'à un moment aussi, il y a le doute psychologique qui s'introduit au-delà du mal physique?
Mais l'appréhension, forcément. L'appréhension, elle revient à chaque reprise.
À chaque geste.
Et lui, à chaque reprise, c'était trois fois par an. Donc,
elle est inscrite dans la mémoire, en fait. C'est physique. Ça veut dire que sur la moindre chose, même si par exemple, tu vas mettre du strap ou des choses comme ça pour maintenir ta cheville, t'es marqué quand même dans ton esprit par rapport à cette grosse blessure. Ce qui fait que sur le moindre appris, en plus, certainement, il devait être fragilisé, parce que même si tu fais tout le travail, et j'imagine qu'il a travaillé, parce que pour avoir autant d'acharnement pour essayer de revenir, c'est qu'il a travaillé beaucoup, tu vois, donc il a changé beaucoup de choses. Mais finalement, il n'a jamais réussi à passer au-dessus de cette douleur. Alors, il y a certainement une part de psychologie, mais il y a aussi beaucoup physique.
Gilles. Il y a des joueurs aussi qui à un moment sentent que leur corps ne répond plus et qui ne peuvent pas, selon les caractéristiques de leur poste, enchaîner. Alors à Diaby, il s'est dit à un moment, je ne pourrais plus avoir cet abattage. Moi, je me souviens, j'ai suivi beaucoup de la carrière de Van Basten, l'attaquant néerlandais. Bah lui, sa cheville.
Ouais, c'était pareil, c'était la cheville.
Voilà, lui c'était la cheville, et il savait qu'à un moment, il pourrait plus retrouver la souplesse de la cheville, qui fait que les attaquants devant le but ont cette posture qui leur permet de marquer, d'enchaîner très rapidement. Lui, il s'est dit, si je m'obstine, non seulement je pourrais plus regagner ce meilleur niveau que j'avais, mais je risque d'être, entre guillemets, infirme pour le reste de ma vie. Je risque de souffrir pour le reste de ma vie. Donc, il avait aussi renoncé à un moment.
Mais un jeune comme Gaïda Fofana, qui était à Lyon, qui était vraiment un espoir, qui aurait joué en équipe de France, mais j'en suis sûr, absolument sûr, a eu la même blessure que Van Basten à la cheville, exactement la même, et sa carrière s'est arrêtée quasiment du jour au lendemain. Il s'est battu pendant un an pour revenir, et à 23 ans, c'était fini.
Tout à l'heure, Hugo Moissonnier, quand on préparait l'émission, nous parlait d'un certain Soufiane Koné, oui, du côté de Nancy, qui lui aussi n'est allé que de blessure en blessure, alors que il était vu comme un des grands joueurs par son entraîneur, autant que Cristiano Ronaldo.
Ouais, bien sûr, c'est vrai qu'il avait des qualités physiques incroyables, c'est un attaquant incroyable. Alors moi, j'ai pas joué avec, j'ai joué contre lui. Mais c'est vrai que...
Vous en souvenez peut-être plus encore.
Ouais, non, bah alors j'ai eu de la chance, j'ai pas subi ces
assauts.
Ouais, ces assauts, mais après forcément il y a la fragilité. Alors il y a la fragilité physique et puis après il y a la fragilité mentale qui fait que il décroche et il y arrive toutes ces aventures derrière. Alors il y a aussi je pense que c'est la prédisposition qui fait que tu arrives comme ça. C'était pas non plus obligé de sombrer non plus dans ce...
Oui, lui,
ce,
il a sombré dans les faits divers.
Voilà. Et si on prend l'exemple de Gourcuff, par exemple, pour revenir sur une fragilité physique et mentale, moi, je pense sincèrement que c'est son rapport à la compétition qui l'a affaibli, et à l'autre compétition qui l'a affaibli sur le long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions, qui
anxieux. Après, il y a beaucoup de choses.
Voilà,
ouais,
voilà, c'est il ça. Est très anxieux.
Il n'y a pas que le côté physique, c'est ça.
Et il est tourné vers le jeu et il considère que la haute compétition dénature un peu le jeu, mais. Ça l'empêche pas d'accepter, de quand il était à Lyon, de gagner 500 000 euros par mois, son rapport difficile à la haute compétition. Mais en attendant, je pense que c'est ça qu'il a détourné du jeu, qui a fait qu'il est devenu progressivement impopulaire dans son vestiaire, et puis toujours blessé et incapable de revenir.
L'inquiétude en ce moment, c'est autour de Kingsley Coman, qui lui aussi souffre beaucoup de la cheville. Il a été absent, il a manqué la Coupe du Monde, alors que c'est un des grands espoirs du football français, et qui joue au Bayern. Là, il a joué le match aller à Liverpool, il jouera peut-être pas le match retour, il s'est encore baigné ce week-end. Blessé ce week-end, Gilles.
Vous avez raison, pour le moment, c'est une très belle carrière, mais une carrière encore en pointillé, notamment au niveau le plus haut, c'est-à-dire celui de l'équipe de France, qui lui fait manquer des grands rendez-vous.
Énormément.
Il y a une incertitude. Après, c'est vrai que le football d'aujourd'hui est tellement physique, tellement intense, que la moindre fragilité se paye cash. C'est-à-dire que au niveau athlétique, ça n'a plus rien à voir même avec il y a 10 ans. Donc, par exemple, pour Gourcuff, il y a des blessures effectivement psychosomatiques qui sont dues à l'usure. Je ne peux pas atteindre un tel niveau de compétition, mais un tel niveau physique aussi. Oui. C'est presque, entre guillemets, des machines au sens athlétique du terme, et le moindre dérèglement fait que vous n'êtes plus totalement opérationnel.
Ce qui peut d'ailleurs interroger, c'est qu'on a l'impression que les machines font tout, parce que là on est en train de réparer le l'os de Neymar avec du plasma et je sais pas quelle injection miracle pour qu'il revienne bientôt. Mais par exemple dans le cas de Coman, pour l'instant il y a pas véritablement de solution à sa cheville blessée.
Alors en Allemagne il y a eu de nombreuses polémique liée au traitement des joueurs, jusqu'à quel point, mais c'est une très bonne question.
Notamment du côté du Bayern.
Absolument. Jusqu'à quel point il y a des joueurs qui ont refusé les piqûres, les traitements, ça a fait des polémiques jusqu'en équipe de France. Mais, jusqu'à quel point, effectivement, la science peut réparer. À un moment, quelqu'un, par exemple, comme le Brésilien, le Ronaldo, a été réparé par la science. S'il n'y avait pas cette science tellement sophistiquée, il n'aurait pas gagné tous ses titres. Mais faut-il accepter et faut-il pouvoir?
Mais oui. Je me dis, t'es dans la difficulté, tu n'arrives pas à jouer, tu n'arrives pas à enchaîner. À un moment donné, est-ce que tu ne te poses pas la question de te dire, est-ce que je peux passer plus loin pour me dire, voilà, je vais revenir enfin et pouvoir regoûter au plaisir que tu avais? Il y a cette fragilité aussi.
Et Ronaldo était un exemple pour ça incroyable, parce que c'est ses deux genoux et finalement il arrive en 2002 à être champion du monde et meilleur joueur de la Coupe du Monde 2002. Donc,
c'est un bosseur.
Ouais. Ronaldo. Et alors on a l'excès inverse, c'est Cristiano Ronaldo et Messi qui eux ne sont jamais blessés. Est-ce que c'est la chance ou est-ce qu'ils savent entretenir leur corps?
Je pense que physiologiquement et physiquement, c'est pas un hasard. S'ils maintiennent ce tel niveau de compétitivité, des ballons d'or à l'appel, présents sur tous les fronts, comme dit Messi là en ce moment, je veux gagner toutes les compétitions, y compris la Coupe du Roi. Il pourrait se concentrer sur la Ligue des Champions. Non, c'est que là, il y a un capital génétique et physique et entre guillemets surhumain. Je dis ça dans le bon sens du terme.
Non mais pour Messi, le capital génétique a été un peu aidé quand même.
Oui, c'est ça.
Alors
j'allais dire, tu as raison.
Il a eu un traitement aux hormones pendant des années quand même.
Oui.
Non mais autrement, il ferait 1m40.
Ouais, mais il y a ça et il y a aussi le fait que alors on peut pas comparer les deux parce que Cristiano c'est un bosseur aussi. Lui, c'est un acharné et Messi, il est préservé par le club aussi, c'est-à-dire que voilà, c'est le moindre effort, c'est-à-dire qu'il joue que le côté offensif, il ne participe pas au travail défensif. Il est voilà, c'est aussi c'est un encadrement qui fait que voilà, il évolue dans les meilleures dispositions pour réussir aussi. Alors bon, il a le talent bien sûr, mais bon.
Ouais. En tout cas, voilà, ces pauvres joueurs qui parfois n'ont pas les carrières qui leur sont promises à cause de ces blessures à répétition. Partons du côté de l'Angleterre. Les Foxes de Leicester City sans entraîneur, Claude Puel, qui dirigeait l'équipe depuis l'octobre 2017, aura donc tenu à peine plus d'un an. L'ancien entraîneur de Lille, de Lyon, de Nice avait tenté l'aventure anglaise en commençant par Southampton. Puis il a donc été appelé à Leicester. Il n'aura pas résisté à cette lourde défaite des siens, 4-1 contre Crystal Palace à domicile. Un concurrent direct, puisqu'ils sont 12e de Premier League, Crystal Palace 13e. C'est la première fois pourtant que Claude Puel est débarquer avant la fin d'une saison. Et il est resté d'ailleurs élégant au moment des adieux dans sa lettre qu'il a adressée en parlant d'un honneur qu'il avait eu de travailler, et notamment avec le regretté Koen Vichai, qui était ce président propriétaire du club mort dans l'accident d'hélicoptère juste après un match. Ma mission au club se termine ici, mais je continuerai à suivre les performances. Est-il injuste ou pas de le renvoyer? On avait posé la question à Jackie Bonnevay il y a quelques temps, c'était le 31 janvier dernier, lorsqu'il y avait eu un match nul arraché par Leicester à Liverpool, donc face à cette équipe qui était première du championnat d'Angleterre. Jackie Bonnevay qui trouvait ça, toutes ces rumeurs, très injuste.
Je trouve ça injuste, irrespectueux. Dès notre premier match, le premier match de la saison, nous avons joué à Manchester United. Nous avons perdu 2-1 en faisant un très bon match. Le lendemain, déjà, on annonçait Thierry Henry. Après chaque défaite, on annonce un nouvel entraîneur. Et je crois que Claude a été, d'après les tabloïds, chaque fois ils font des classements du premier entraîneur qui va être remercié. Ben, il a toujours été en tête. Et je dois dire que on l'a vu dans une équipe qui s'est bien comportée en produisant du jeu, en allant vers l'avant, en essayant de développer le club, les joueurs, c'est son fonctionnement. Alors c'est vrai que c'est très désagréable, très surprenant, et je trouve ça irrespectueux, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ?
Gilles, ça vous a surpris qu'on renvoie Claude Puel à ce moment de la saison ?
Non, parce que c'est vrai qu'en suivant, il était annoncé comme étant le prochain
depuis,
sur la liste.
Depuis le début de l'été, on disait qu'il ne tiendrait pas.
Oui, même certains en Angleterre étaient surpris qu'il soit maintenu. Moi, je trouve ça profondément injuste, parce que c'est un club qui a été champion miraculeusement, qui ne s'en est jamais remis, qui a connu un drame. Il a été là, et après le drame, sans un entraîneur à poigne comme lui, structuré, pas toujours flamboyant dans le jeu, mais cohérent, où serait le club aujourd'hui? Et pour quelques défaites, on le vire. C'est la cruelle injustice du football moderne. Moi, ça me révolte.
Alors justement, sur la méthode Puel, on va écouter un ancien joueur de cette équipe, l'ancien défenseur allemand, Robert Hout, qui explique, selon lui, en tout cas, comment était perçu le changement de méthode avec Puel.
Vous savez, en ce qui me concerne, avant Puel, nous avons eu des entraîneurs très énergiques et qui envoyaient des ondes positives, qui s'impliquaient dans les matchs. Et quand il est arrivé, il a imposé quelque chose qui était complètement à l'opposé. Notre équipe jouait avec un niveau physique très élevé pendant toute la partie et il a tout chamboulé. Et c'était contre les joueurs dans le sens où il a dit « Bon les gars, ça fait 3 ans que vous jouez comme ça, maintenant vous allez faire à ma manière. » Et ça n'a pas marché. Il avait promis un style qu'il n'a jamais appliqué et les matchs de Leicester se jouait toujours de la même manière, comme nous l'avons fait pendant 2 ou 3 ans. De ce point de vue-là, il n'a pas convaincu. Mais vous savez, c'est comme ça, c'est la vie d'un entraîneur. Si vous ne réussissez pas, vous êtes viré. Vous savez, quand vous tenez la barre du navire, quand les choses ne vont pas, il faut le dire. Il faut que quelqu'un le relève, le pointe et le dise aux joueurs. Qu'ils disent qu'ils ne bossent pas assez. Franchement, ils n'étaient pas faits pour ce boulot. Si vous laissez l'équipe faire de mauvais matchs comme ça, c'est vous à l'échec.
Voilà Robert Hout, qui est un joueur allemand, qui s'est un peu lâché, c'était sur la BBC. Ça vous surprend, Eric, un tel témoignage, ou quand même, c'est assez violent, mais on a l'impression, et c'est ce qu'on lisait quand même, où on entendait, il y avait des mésententes entre Claude Puel et certains joueurs du vestiaire.
Bon, ça existe dans tous les vestiaires. Alors après, là, on sent quand même que le gars, il l'aime pas trop et qu'il est content qu'il soit parti, mais.
C'est possible qu'il y ait une telle différence?
Après, c'est facile de parler.
De méthode.
Non, mais déjà, c'est facile de parler. Là, le gars, il est parti. C'est facile de
mais lui,
tailler.
Parlait, il était encore en poste.
Ouais, mais il jouait pas. Donc, comme il joue pas, c'est plus facile pour lui de tailler que de dire les bonnes choses. Alors, après,
vous trouvez ça injuste, vous aussi?
Oui. On aime ou on n'aime pas le personnage et puis sa méthode, mais après moi je pense que c'est un entraîneur qui mérite le respect et qui a beaucoup travaillé pour avoir ce respect. Il était comme ça en tant que joueur aussi, hein. C'est-à-dire que le gars il lâchait rien, il travaillait, c'est sa méthode. Et ça ne l'empêche pas il a toujours eu une image de gars fermé et tout ça, alors que c'est un mec qui rigole tout le temps et qui est super sympa. Mais voilà, c'est vrai que il a cette image de en dehors. Alors bon, après ses méthodes, moi j'ai pas connu en tant que
entraîneur.
Voilà, en tant qu'entraîneur, donc je peux pas le juger par rapport à ça, mais par rapport à ce qu'il a développé et ce que j'ai vu, il mérite pas autant d'acharnement par rapport à un joueur.
Vincent Duluc.
Mais moi je suis d'assez près, je sais pas, d'Angleterre en général.
Oui, je sais bien.
La difficulté, c'est qu'il reproduit un petit peu le même schéma qu'à Southampton, c'est-à-dire qu'il lasse un peu les supporters, qui lui reproche un jeu un peu ennuyeux alors que pour lui il est structuré. Qui se met à dos les anciens du vestiaire parce qu'ils pensent qu'il faut tourner la page et les anciens ils ont envie de durer et donc ils lui sabotent un peu, enfin ils lui sabotent un peu la planche. Donc voilà, tout, c'est compliqué. Alors quand il perd 7 de ses 8 derniers matchs, comme ça vient d'être le cas, voilà, c'est difficile. Ce qui a permis de durer aussi longtemps, c'est les bons résultats contre les gros.
Voilà, c'est ça, ce qu'on avait souligné à l'époque quand on avait contacté Jackie Bonnevay. Ils venaient de faire un match nul à Liverpool. Ils avaient battu Manchester City à domicile. Absolument. Et ils arrivaient un peu à tenir la dragée haute à ces autres clubs.
C'est-à-dire que contre les gros, ces plans de jeu marchaient parce que les joueurs avaient peur d'en prendre une.
Exactement.
Donc ils l'écoutent. Donc ils l'écoutent. C'est toujours pareil. Et contre les petits, les joueurs se disent, mais avec le talent qu'on a, c'est pas la peine de l'écouter. L'autre là-bas devant son banc, on va faire ce qu'on veut. Et quand ils font ce qu'on veut, et quand ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils perdaient. Donc en fait, c'est quand même un peu les joueurs qui,
bien sûr,
qui ont eu sa peau à la sortie. C'est la génération de Hutt, de Schmeichel, de Morgan, de Fuchs, de Vardy, surtout Vardy, des joueurs comme ça. Mais le Kasper, le père de Schmeichel, David Schmeichel, le père de, de Kasper, le gardien de Leicester, avait découpé Puel il y a 15 jours, 3 semaines en disant qu'il fallait changer. Donc on savait que ça allait arriver. J'ai peur pour lui que pour l'Angleterre ça soit compliqué maintenant après ces deux échecs à Southampton et Leicester.
Alors que Southampton, en plus, ils avaient terminé 8e, si je me trompe pas, l'année où il entraînait. Et finalement, Gilles, ces équipes-là, on a l'impression que les propriétaires, ils veulent être tout de suite dans le top 6. Quand on voit la bagarre qu'il y a, par exemple, encore cette saison, et quand on parle de Manchester United qui fait une remontée ou d'Arsenal, c'est quand même entre des clubs qui sont un peu jaloux de leur potentiel dans ce championnat. Après, pour une équipe comme Leicester, comment faire pour exister?
Alors, l'argent crée l'impatience. Il y a tellement d'argent dans le foot anglais.
Oui, mais il n'y a pas de grande star dans cette équipe, finalement.
Non, mais je veux dire, les propriétaires investissent tellement que pour eux, il faut aller très vite. Alors, juste en dessous du Big Five ou du Big Six, là, il faut prendre la place de 7-8e. Sinon, c'est une saison ratée. Milieu de tableau, ça mène à rien. Donc, on vire l'entraîneur, on en prend un autre. En Angleterre, ça c'est très fréquent maintenant. Regardez, si c'est arrivé à Mourinho, ça peut arriver à peu. Non, mais l'impatience, voilà, il y a une telle manne financière. Ils ont l'impression, eux, de recruter tellement que quand vous n'êtes pas un entraîneur, je dirais, omnipotent à la Guardiola et... ce qui est arrivé à Mourinho contredit un peu ce que je suis en train d'exprimer, mais c'est pas grave. Quand vous n'êtes pas omnipotent,
pour une fois,
vous êtes viré.
Pour une fois, ça t'arrive une fois en 20 ans.
Vous êtes viré.
Voilà.
Donc, Mourinho l'a été. Elle peut bien l'être aussi.
Là où Gilles pointe vraiment le doigt sur le sujet sensible, c'est qu'en fait, il y a 10 clubs en Angleterre, et donc, les supporters de ces 10 clubs estiment que leur place, c'est 7e. Voilà. Mais sauf que c'est pas possible. Et c'est le cas d'Everton, et c'est le cas de Leicester, et donc,
Crystal Palace, West Ham,
Watford, Wolverhampton, pour tous ces clubs-là, le siège d'entraîneur est complètement instable. Parce que de toute façon, c'est impossible.
Alors, est-ce que ça vous surprend que, aujourd'hui, eh bien, maintenant que Claude Puel n'est plus là, et finalement, peut-être sans le savoir, il défendait les couleurs françaises sur un banc, eh bien, alors évidemment, hormis la Ligue 1, il n'y ait plus, dans les grands championnats, d'entraîneurs français.
Ah, mais attendez, là, je m'insurge. C'est parce que Zidane, volontairement, s'est mis,
mais bien entendu.
C'est parce que Deschamps, l'un des meilleurs, sinon le meilleur entraîneur du monde.
Oui, l'année dernière, on a deux Français qui gagnent les plus grands titres, bien sûr.
Voilà, Wenger est en réserve de la République, peut-être qatarienne ou une autre...
Enfin, en réserve, c'est peut-être...
Si tant est que le Qatar, c'est une République, voilà. Et Blanc,
est en réserve.
À force d'attendre, est en réserve, de la réserve. Donc, mais attendez, quand même, le management français, ça tient la route, quand même.
Oui,
on a
mais
des
à
bons
l'époque,
entraîneurs.
On a, je me souviens...
Zidane, il va où il veut, Annie, aujourd'hui.
Oui,
Zidane,
bien sûr, mais...
Peut-être pas à Manchester City.
Mais seulement, ils sont tous un peu, là, en train d'observer et pas de travailler.
Patience, Annie, patience.
Non, mais on se souvient de Philippe Montagnier, qui était à un moment à la Real Sociedad. Oui. Rudy Garcia, qui était à Rome.
Oui. Il y a peut-être le choc des cultures aussi, qui fait que, en Angleterre, la Puel, c'est un mec super exigeant. Si les gars, ils comprennent pas qu'il faut mettre cette exigence pour réussir, ils le comprennent quand ils jouent contre les gros parce qu'ils ont les chocottes, et du coup, ils font tout ce qu'il faut. Et ça marche. Et ils font
et
pas
après,
ce qu'il faut, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est aussi ça. Faut l'adhésion des joueurs.
C'est une histoire de philosophie.
C'est, peut-être.
Et d'agents. Et d'agents aussi. C'est une histoire d'agents. Ouais. Parce que, par exemple, les Portugais sont marché anglais.
La mode. Les Argentins ça marche bien là-bas.
Donc, c'est aussi une affaire de filière. D'ailleurs, Bruno Genesio, cette année à Lyon, a pris un agent. Va travailler avec un agent. Et puis, pour rentrer dans le marché anglais. Si jamais Lyon décide de pas le garder, il doit savoir avant la fin mars, il veut rentrer sur le marché anglais. Il sait que c'est pas un agent français qui va le faire rentrer sur le marché anglais.
Donc c'est pas forcément une histoire de qualité de l'entraîneur français.
Non mais un peu quand même. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même qu'il y ait des entraîneurs français qui arrivent avec des idées nouvelles. Moi je continue de penser que les 20 années post-98 ont été terribles. Et la formation
peu défensive.
Franco-française ouais. Et très défensive de Clairefontaine pendant 20 ans a fait beaucoup de mal aux entraîneurs français. Donc j'espère qu'il y en a qui vont sortir de ce moule.
C'est sûr qu'en première ligue, ça va pas de défendre comme ça.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce Radio Foot International. Merci beaucoup, Vincent Duluc.
Merci.
Je rappelle
à vous.
Votre livre, Enfant de la balle, donc l'histoire des jeunes de cette équipe de France. Merci à David Finzel et à Pierre Guérin qui m'ont aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno à la réalisation. À demain.